Bon, c'est notre dernière réunion. Et en fait, j'ai 20 heures d'enseignement à concentrer dans cette heure-là. Alors. Retournons à Matthieu 24. Dans Matthieu 24, le texte commence. Les disciples montrent le temple à Jésus, comme si lui ne l'avait pas vu. Il est le créateur de l'univers, c'est son temple. Il pense qu'il va être impressionné par les structures du temple et il leur dit, il viendra un temps, il ne restera plus pierre sur pierre de ce que vous voyez là. Ça, c'était un choc pour eux. Alors, quand ils sont sur la montagne des Oliviers, au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Quand on lit Matthieu 24 et tout le discours de la montagne des Oliviers, il faut comprendre que les disciples ont posé au Seigneur trois questions. Quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire la destruction du temple dont tu as parlé. Ensuite, quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Alors, ils ont demandé trois choses. La destruction du temple, ta venue et la fin du monde. Ils pensaient, eux, que c'était toute une seule chose. Mais ce n'est pas une seule chose. Et alors, Jésus répond à toutes ces questions, mais pas nécessairement dans cet ordre-là. Alors, il faut que nous discernions ça dans ce qu'il dit dans ce passage. Nous n'avons vraiment pas le temps de faire une analyse détaillée, mais... Alors, quand on parle de signes du retour du Seigneur, il y a beaucoup de livres écrits là-dessus, de sermons qui ont été prêchés là-dessus, les signes du retour, les guerres, les rumeurs de guerre, les tremblements de terre, la peste, et toutes ces choses-là dont Jésus parle. Mais ce n'est pas là-dessus que lui insiste. Et c'est cela, en fait, qui m'a poussé à commencer à écrire des livres il y a une vingtaine d'années, lorsque j'ai remarqué que personne, en du moins moi je ne trouvais aucun livre, sur le sujet du véritable signe que Jésus a donné. La première chose qu'il dit, les versets 4 et 5, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous vous rappelez, il a demandé quel est le signe de ton retour et le signe de la fin du monde. Qu'est-ce que c'est la première chose qu'il leur dit? Attention, que personne ne vous trompe. Vous voulez savoir ce qui va se passer alors qu'on approche de la fin? Il y aura un moment de grande tromperie religieuse, la plus grande que le monde a jamais connue. Et dans le verset 11 et le verset 24, il revient là-dessus. Le verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Le verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Vous remarquez immédiatement, je ne sais pas grand-chose sur le Canada, mais je peux vous dire qu'aux États-Unis, un des grands mouvements dans l'Église, ce sont les signes et les miracles. John Wimber, le mouvement du Vineyard, tout cela s'est basé sur l'idée que ce dont nous avons besoin, ce sont des signes et des miracles, l'évangélisation avec puissance. Si vous ne faites pas de miracles, vous ne pouvez pas convaincre les gens que l'Évangile est véritable. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous avertit de ces faux signes, de ces faux miracles qui vont venir, de ce signe des prodiges, prodiges et des miracles qui viendra vers la fin. C'est exactement le contraire de ce qu'on entend aujourd'hui sur la télévision chrétienne et dans les livres chrétiens. Il met en garde contre les faux prophètes. Est-ce que nous avons des faux prophètes aujourd'hui? Oh, nous en avons. J'ai suffisamment de documentation ici que nous n'aurons pas le temps de regarder. Il y en a des faux prophètes. Dans ma prochaine lettre, je pense que je parle là-dedans d'Oral Roberts. Est-ce que vous connaissez Oral Roberts? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'Aaron Roberts? Je pense que tout le monde a entendu parler de lui. C'est un faux prophète, ce gars-là. Il prétend qu'il a une conversation de 7 heures avec un Jésus de 900 pieds de haut, qui lui a dit qu'il devait construire un hôpital à Tulsa, Oklahoma. Et il a envoyé une lettre partout demandant aux gens qui reçoivent sa lettre. Ça, c'est ce que Jésus lui a dit. Que s'ils envoyaient 240 $ chacun, ils pourraient bâtir cet hôpital de millions de dollars. Il comptait 150 millions de dollars à construire tout ça. Et que Jésus, alors, lui donnerait le remède du cancer. Que ce serait un centre pour la guérison, de guérison pour le monde entier. Alors, ils ont rentré 777 livres, et ils n'ont, et ils n'ont jamais eu plus que 149 malades, et l'hôpital a fait faillite. Maintenant, on dirait, après ça, les gens vont certainement dire, « Bon, ce gars-là, c'est un faux prophète, ça peut pas être Jésus qui lui a parlé. Si c'est Jésus, Jésus lui a menti. Il n'a jamais eu le remède au cancer, il n'a jamais eu le remède à rien du tout, puis toute l'affaire a fait faillite. » C'était une escroquerie. Pourtant, il continue. « Jésus va amener ma vie à moins que je trouve 8 millions de dollars. » Et les gens continuent à envoyer de l'argent, ils continuent à être le grand héros de la télévision chrétienne, les conférences chrétiennes, etc. C'est tellement évident qu'il est un faux prophète. Il aurait dû être lapidé, le bonhomme, dans l'ancien temps. Mais où sont les gens qui osent tenir, se lever contre lui au lieu de ça? Pourquoi est-ce que Billy Graham ne dit rien? Je suis pas ici pour attaquer Billy Graham, mais je vous parle de la situation dans l'Église. Billy Graham est allé faire la dédicace de l'école de loi à l'université Oral Roberts, qui maintenant aussi a fermé boutique. Nous avons tant de faux prophètes, comme Jésus l'a dit, et ils continuent à faire connaître leurs fausses prophéties, et ils continuent de faire du dommage dans l'Église, et si vous osez vous élever contre eux, alors on vous accuse de créer des divisions. Il y a des gars comme Benny Hinn à la télévision, je ne sais pas si vous le connaissez au Canada. Ça, c'est la grande étoile aux États-Unis. Benny Hinn, il fait un service de communion et il lève les mains au ciel. Et là, il loue et puis il prie. Et quand ses mains sont fatiguées, ses mains tombent. Et alors, il sent une robe, une corde de soie et il touche, et il y a de la chair, là. Oh, une robe de soie, et il sent. Il dit, il y a quelqu'un, là. Oh, mais il dit, c'est Jésus, Jésus qui se révèle à lui, et qui lui a dit que dans le pain et dans le vin, il y a le véritable corps et le véritable sang du Seigneur Jésus-Christ. Il retourne à la transsubstantiation de l'Église catholique. Et vous avez tous ces gens qui sont là, et ça, c'est le plus gros ministère de télévision au monde, et ils sont là, et ils boivent tout ce qu'il leur dit. Où Benny Hinn leur dit comment il a touché quelqu'un sur le front et la personne tombe à la renverse et sa perruque a revolé. Et il essaie de remettre sa perruque, mais il se relève et Benny lui touche la tête et puis le gars tombe de nouveau. Et Benny dit, j'ai fait ça 5 fois juste pour voir tomber sa perruque. Ça c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est-tu un spectacle de music hall ou c'est ça la puissance du Seigneur qui renverse ce gars-là? C'est le Seigneur qui veut faire rire le monde? C'est le Saint-Esprit qui fait ça? Certainement pas. Où est-ce qu'il va chercher cette puissance? Benny Hinn dit qu'il va au tombeau de Catherine Kuhlman et d'Aimé McPherson, et puis en se tenant près de la tombe, il y a l'onction du Saint-Esprit qui est autour de leur tombeau, et là, il reçoit l'onction du Saint-Esprit, et alors il écrit un livre qu'il appelle l'onction, et c'est le livre qui se vend le plus dans les milieux chrétiens. C'est incroyable! Et alors, il y a Toronto, chez vous autres, les Canadiens, avec votre bénédiction de Toronto, là, qui se répand dans le monde entier, vous devriez être honteux. Le réveil du rire, les gens tombent à la renverse, ils peuvent pas parler, ils rient comme des dératés. On vient de recevoir une lettre de missionnaires des assemblées qui sont en Albanie. Et ils disent que le Vineyard est rendu en Albanie. Et vous parlez à ces gens-là, ils ne connaissent absolument rien de l'Évangile. Tout ce qu'ils savent, c'est que Dieu les a touchés. Et là, ils sont tombés par terre, puis ils sont mis à rire. Oh, quelle illusion, quelle illusion. Jésus avertit contre ça. Paul a mis en garde contre ça aussi, il a employé le même genre de langage que Jésus dans de Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, que personne ne vous séduise. Ce jour ne viendra pas avant que vienne un grand réveil. Non, c'est pas ça qu'il dit. Avant que vienne l'apostasie et ensuite l'homme de péché qui se révélera. Ça, c'est le signe principal du fait que le Seigneur est à la porte. La grande illusion qui se répand dans l'Église. Je pourrais vous en raconter tellement, mais ce n'est pas édifiant. Mais la documentation que nous avons, Copeland, il a 15 000 personnes à une conférence. Et alors, tout à coup, Jésus parle au travers de sa bouche. Alors, on a une prophétie. Le grand homme de Dieu, Jésus parle au travers de lui. Mais Jésus dit, ne vous laissez pas déranger lorsque les gens vous accusent de prétendre que vous êtes Dieu. On m'a accusé de la même chose. Est-ce qu'ils vous accuseront pas vous aussi? Ben, il y a une bonne raison. Jésus était Dieu. Moi, je le suis pas. Mais ce Jésus dit alors, mais moi, je n'ai jamais prétendu être Dieu. J'ai seulement prétendu que j'étais un homme par qui Dieu travaillait. Donc, on nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, venant de la part d'un soi-disant Jésus qui parle au travers d'un prophète. Et toutes les personnes qui sont là, il n'y en a pas un seul qui s'est levé en disant « Arrête ça, espèce d'hérétique. Ça sort, ça va dans son magazine, ça va de centaines, de milliers de gens. » Et il n'y a personne qui écrit pour dire que ce n'est pas correct. Pouvez-vous imaginer l'illusion qu'il y a là-dedans? Il y a Paul Krause qui est là, à la télévision. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau Trinity aux États-Unis. Oh, il y en a qui s'en vont. Est-ce qu'ils ne sont pas contents de ce que je dis? Ah non, OK. Et ce gars est là, puis il dit, mais nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Ces hommes enseignent que nous sommes des dieux, des petits dieux. Et ils disent, faites attention, ne l'appelez pas avec un G majuscule, mais avec un petit G. Ben, un petit dieu, c'est un faux dieu. C'est incroyable. C'était ça la promesse du serpent. Eh, vous serez comme des dieux. On ne peut pas imaginer l'illusion qui se répand parmi des gens, et beaucoup d'entre eux sont des chrétiens sincères, et pourtant ils se laissent tromper par cette illusion. Maintenant, on m'a accusé d'être une espèce de fanatique parce que je parle de ces choses-là. Je ne pense pas que je suis aussi fanatique que Paul. Dans Actes chapitre 20, vous vous rappelez, à Milet, il a fait venir les anciens d'Éphèse. Et qu'est-ce qu'il a dit aux anciens d'Éphèse? Il leur a dit bien des choses. Il a parlé de la repentance envers Dieu, de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé de l'Évangile qu'il avait vécu, pas seulement qu'il avait prêché, mais qu'il avait vécu. Et puis il dit, rappelez-vous, comment durant 3 ans, je n'ai pas arrêté d'avertir chacun d'entre vous, nuit et jour, avec des larmes. Contre quoi est-ce qu'il les avertissait? Il dit, après mon départ, il viendra parmi vous des loups dévorants qui n'épargneront point le troupeau. Il viendra de parmi vous des faux docteurs. Il dit, c'était probablement ses frères aimés qui étaient là, des anciens qu'il avait formés lui-même. Et lorsque vous lisez l'Épître aux Éphésiens, il n'a pas de reproche à leur faire, vraiment. Et pourtant, il avait besoin de dire aux anciens d'Éphèse, il s'élèvera parmi vous des hommes qui enseigneront des choses perverses pour attirer les saints après eux. Et il dit, j'ai pleuré pendant 3 ans, jour et nuit. Je vous ai averti de ces choses-là, de l'apostasie. Moi, je pense pas que je suis aussi fanatique que Paul n'a jamais été. Je ne suis pas fanatique parce que je m'inquiète de l'apostasie. Jésus en a parlé aussi. Et quand vous arrivez à la fin du chapitre, c'est assez triste. Il est dit qu'ils se sont mis à genoux, ils ont prié avec Paul et ils ont pleuré. Est-ce qu'ils pleuraient à cause de l'apostasie? À cause de l'apostasie que Paul leur avait dit qu'il allait venir? Est-ce qu'ils se repentaient déjà de savoir qu'il y en avait parmi eux qui allaient être des faux docteurs? Non. Ils pleuraient parce que Paul s'en allait. Mais Paul ne se préoccupait pas du fait qu'il s'en allait. Lui était prêt à partir à être auprès de Dieu. Ils n'ont aucun souci pour l'apostasie qui s'en vient. Alors lui, il s'inquiète vraiment. Si ça allait si mal du temps de Paul, il dit toute l'Asie m'a abandonné. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation aujourd'hui? Nous devons nous tenir fermes pour la vérité de la parole de Dieu. Ensuite, il y a des choses dont on a parlé dans ce document qui a été signé par des évangéliques et des catholiques. C'est insondable que des évangéliques connus comme J.I. Packer, Charles Colson, Bill Bride, qui dirige Campus Crusade, pour Christ et d'autres gens comme ça. Ils ont signé un document avec les catholiques en disant que nous pouvions évangéliser le monde ensemble. Et dans ce document de 24 à 25 pages, il est dit, et je crois que ma citation est assez bonne, ce n'est ni légitime théologiquement, ni un bon usage de nos ressources pour une communauté évangélique, pour une communauté chrétienne, pardon, les évangéliques par exemple, de faire des prosélytes dans une autre, d'évangéliser une autre communauté chrétienne, les catholiques. Et les termes catholiques et évangéliques reviennent tout au travers de ce document. Et il n'y a aucune indication du fait qu'un catholique n'est pas un chrétien. Pour eux, tous les catholiques sont des chrétiens. Si vous êtes un catholique actif, vous êtes un chrétien. Je n'ai certainement pas besoin à vous autres de vous dire quelles sont les erreurs du catholicisme. Beaucoup d'entre vous venaient de là. Beaucoup d'entre vous étaient catholiques. Et vous en êtes sortis. Première page, Vatican II. Vatican II commence en disant, ça c'est un document libéraliste qui est censé être protestant et qui va tout changer dans l'Église et qui n'a rien changé du tout, excepté quelques changements extérieurs, mais au cœur il n'y a rien de changé. Et Vatican II, le document Vatican II commence avec la liturgie sacrée, il le dit. C'est par la liturgie sacrée, particulièrement le sacrifice de l'Eucharistie, que l'œuvre de notre rédemption est accomplie. Vous étiez catholique, vous savez que la rédemption n'est pas une chose accomplie, elle est en train de s'accomplir, selon l'Église catholique. Mais Hébreux 9:12, il nous a dit que par son sang, il est entré une fois pour toutes dans le lieu céleste, il a obtenu la rédemption éternelle pour nous. Mais l'Église catholique dit que la rédemption est en train de s'accomplir et que l'Église l'accomplit en offrant ses rituels, le sacrifice de la messe. L'Église dispense cette grâce aux gens qui viennent à la messe. Charles Colson, dans son livre « Le corps », qui a beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, mais c'est en fait un appel pour l'unité avec l'Église catholique. Dans ce livre, il dit « Mais l'Église catholique n'est plus mêlée aux histoires d'indulgence. » J'ai envoyé à Charles Colson des photocopies de 17 pages concernant les indulgences qui viennent du document Vatican II, et il est marqué là-dedans, « Maudit soit celui qui n'accepte pas les indulgences, le purgatoire et les indulgences. » Appelez n'importe quel salon mortuaire et demandez-leur, « Est-ce que vous avez des cartes pour les messes? » Bien sûr, ils les ont. Les protestants savent pas ce que c'est que les cartes de messe, mais les catholiques savent ce que c'est. C'est une carte que vous remplissez, vous mettez le nom de la personne décédée, vous mettez votre nom, puis vous mettez de l'argent avec et vous donnez ça à l'Église. Et en échange de ça, le prêtre va mettre ça sur l'autel et il va dire une messe pour le mort qui va réduire le temps qu'il passe au purgatoire. Un de mes amis dont le père est mort il n'y a pas longtemps, il a envoyé 2 000 $. Il a dit que 2 000 $ de ses cartes ont été achetées pour pouvoir chanter des messes pour le sortir plus vite du purgatoire. C'est pas l'Évangile de Jésus-Christ, ça. Le document Vatican II dit que ce concile sacré repropose, et je le cite, ce concile sacré repropose tous les canons et les décrets du deuxième concile de Nicée, de Florence et de Trente. Le concile de Trente contient au moins 100 malédictions qui vous maudissent, vous les évangéliques, pour tout ce que vous croyez. Et Vatican II, qui est censé être un document si libéral, dit que ce concile repropose tous les canons et les décrets de ces conciles-là, qui incluent la centaine de malédictions envers vous. Une de ces malédictions, c'est si quelqu'un dit que les sacrements de la nouvelle loi ne sont pas nécessaires au salut, qu'il soit maudit. C'est clair et net. Est-ce que la Bible dit une chose pareille sur les sacrements de la nouvelle loi pour le salut? Alors comment au monde est-ce qu'un évangélique peut se joindre à un catholique pour évangéliser le monde dans l'an 2000? Votre cœur se briserait, j'ai une petite brochure ici. Est-ce que je vais au ciel? Dit le titre. C'est écrit par la sœur Marie-Rose Maguidi. C'est elle qui dirige la plus grosse organisation de de recueil pour les enfants aux États-Unis. C'est un petit peu comme la mère Teresa des États-Unis. Oh, ils font un bon travail. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut leur reprocher? La mère Teresa ramasse des gens qui sont sur le trottoir, et puis elle les met dans des bons lits, et puis elle les envoie en enfer. Parce que mère Teresa dit, tout ce que j'essaie de faire, c'est vous amener plus proche de Dieu. Aussi, de votre Dieu, selon la conception que vous avez de Dieu. Mère Teresa dit, si vous êtes un bouddhiste, je vous aiderai à être un meilleur bouddhiste. Si vous êtes musulman, je vous aiderai à être un meilleur musulman. Si vous êtes hindouiste, je vous aiderai à être un meilleur hindouiste. Quel ange de lumière que mère Teresa! Je n'ose même pas dire de mal contre elle. Oh, elle est juste à côté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut critiquer la vie qu'elle vit, où elle se sacrifie pour sortir les gens de la misère? C'est merveilleux de laver les gens, de les nettoyer, de leur donner un bon lit, mais de là, de les envoyer dans une éternité sans Christ, sans l'Évangile qu'elle ne connaît pas, c'est terrible. Parce que j'ai dit certaines de ces choses dans un de mes livres, il y en a qui se sont plaints. John MacArthur est allé à Calcutta et il a interviewé la mère Teresa et il a vérifié exactement ce que j'avais dit. Elle ne connaît pas l'Évangile, elle ne donne pas l'Évangile. Mère Teresa a dit à John MacArthur, « J'aime toutes les religions. » Ça, c'est l'illusion œcuménique contre laquelle Christ nous a avertis. Ce livre ici vous brisera le cœur. Le titre, « Est-ce que je vais au ciel? D'où est-ce qu'il vient? » L'introduction. Je vais vous lire quelques extraits. Elle essaya de lever la tête de son lit d'hôpital lorsque je suis entré, mais elle ne pouvait pas le faire. Elle avait 17 ans, Michel. Ma sœur, j'ai besoin de savoir quelque chose. Dites-moi, ma sœur. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux entendre parler du ciel. Est-ce que vous pensez que je vais aller au ciel? Je me suis penché vers elle, je l'ai embrassée et je lui ai dit, oui, je sais que Dieu a une place spéciale pour toi. Moi, je t'aime de tout mon cœur et je crois en toi. Elle a dit merci. Le jour d'après, elle était morte dans son sommeil. Il y a de quoi pleurer quand on lit ça. Oui, le plus grand centre de crise aux États-Unis ramasse des millions d'enfants qui meurent dans leurs bras et ils ne leur disent pas comment aller au ciel. Ça, c'est le catholicisme romain à son meilleur. Ils ne connaissent pas le chemin du ciel. Et pourtant, nous prétendons nous joindre à eux dans cette illusion d'évangélisation du monde. C'est une horreur pour l'Église de Jésus-Christ. C'est une honte pour l'Église de Jésus-Christ. Mais c'est ce qui se produit aujourd'hui. C'est incroyable, incroyable. Alors, Jésus nous avertit, et ça, c'est le grand signe de son retour. Évidemment, il y a beaucoup d'autres signes qu'on pourrait voir, entre parenthèses. Il n'y a pas de signe pour l'enlèvement, mais il faut y arriver. Les signes sont pour le deuxième retour du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de signe pour l'enlèvement? Parce que l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Il pouvait toujours arriver à n'importe quel moment. S'il devait avoir un signe pour l'enlèvement, alors on saurait au moins que l'enlèvement ne pouvait pas arriver avant que ce signe-là se soit présenté. Mais le retour de Christ depuis le début de l'Église était qu'à n'importe quel moment il pouvait venir, et c'est ça qui motivait l'Église primitive. Paul écrit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, vous vous rappelez, il leur dit, vous vous êtes tournés des idoles vers le Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre son Fils du ciel. Juste, entre parenthèses, les deux épîtres aux Thessaloniciens sont vraiment une grande inspiration pour moi. Lisez ces deux épîtres. Combien de temps est-ce que Paul a été à Thessalonique? Je vais répondre moi-même. Combien de temps est-ce que Paul était à Thessalonique? 3 semaines. En voilà un qu'il sait là. 3 semaines au plus. Il était là 3 sabbats. Peut-être un peu plus de 3 semaines, mais il était là 3 sabbats en tout cas. Et dans ce temps-là, lisez ces deux épîtres, dans ce temps-là, il leur enseignait presque tout ce qu'il avait enseigné. Vous parlez de l'effort que nous devons faire avec un nouveau chrétien. Il y en a qui sont chrétiens depuis des années ils n'ont pas encore compris bien des choses, ils ne sont même pas encore mûris spirituellement. Mais lisez ce que les Thessaloniciens ont appris en 3 semaines. Paul leur écrit. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à peu près verset 5, il leur dit, « Vous vous rappelez que lorsque j'étais avec vous, je vous ai enseigné ces choses. » Il écrit alors les choses qu'il leur enseignait dans cette courte période de temps, et ces gens-là étaient des païens. Et il dit, « Vous vous êtes tournés vers Dieu, vous vous êtes détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre son Fils, Jésus du ciel. » Le frère et sœur Cox étaient à l'aéroport lorsque je suis arrivé. Ils n'ont pas été à l'aéroport au mois de juillet. Ils n'ont pas été à l'aéroport au mois de janvier pour m'attendre. Si la tante Jeanne dit qu'elle va venir à Noël, vous n'allez pas maintenant à l'aéroport et puis regarder si elle va s'en venir. Alors, si ces chrétiens attendaient son Fils du ciel, il faut croire qu'ils l'attendaient à n'importe quel moment. Autrement, ils n'auraient pas attendu. Et nous reviendrons à cela, mais c'est ça le secret de la chose, de l'Église chrétienne. Il n'y a aucun signe pour l'enlèvement. Il peut se produire à n'importe quel moment. Les signes refèrent au deuxième retour. Alors évidemment, si on commence déjà à percevoir un début d'accomplissement des signes du deuxième retour, alors c'est que l'enlèvement lui-même est proche. Il y en a quelques-uns ici. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Jésus dit, il va y avoir un temps difficile. Il va falloir que j'intervienne pour arrêter les choses. Autrement, il n'y aurait plus personne qui vivrait. Maintenant, on ne peut pas tuer tous avec des armes conventionnelles, même pas celles de la Première Guerre mondiale. Notre première génération est notre génération est la première pour laquelle ça a du sens. Si on lisait ça il y a 100 ans, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Si je raccourcis pas les jours, il y aura personne qui survivra. Comment est-ce qu'on peut détruire tous les habitants de la Terre? Même les coquerelles, les maringouins peuvent pas réussir. Mais à notre époque, nous avons l'arme. Et il y a des armes que vous ne connaissez même pas. Mon fils est un ingénieur en électronique et il travaille dans ces choses-là. Il y a des choses qu'il ne peut même pas me dire sur lesquelles il travaille. Il y a des armes qui existent que nous ne connaissons même pas. Nous pouvons transformer cette terre en un caillou stérile avec même plus une coquerelle ou un maringouin en quelques instants. Ça, c'est l'accomplissement de ce dont Jésus parle. Il dit, le jour vient. Nous sommes une génération où c'est possible. Ou Apocalypse 13. Un homme va venir. Et si vous n'acceptez pas son numéro, il pourra tout contrôler, le commerce, les banques, tout le bazar. Et si vous n'acceptez pas son numéro, vous ne pourrez plus rien vendre. Quoi. Parler de ça il y a 50 ans, c'était impossible, mais au monde, comment est-ce qu'un gars va contrôler toutes les banques? Mais nous, aujourd'hui, la chose est possible. On s'en vient avec des cartes, on n'aura plus d'argent en poche, on aura une carte, ça vient du bon sens. Quelqu'un peut pas arriver puis voler le portefeuille à grand-maman puis sauver avec ou cambrioler un magasin puisqu'il n'y a plus d'argent à voler. On ne peut plus vendre de drogue. On ne peut plus vendre de drogue parce qu'il n'y a pas d'argent. On ne peut plus avoir l'argent en fraude parce qu'il n'y a plus d'argent. Alors ce sera certainement bien mieux pour arrêter le crime et tout ça et on va vers une société sans argent. Seulement le problème avec une carte, comment est-ce qu'on sait que c'est à vous ou ça peut être une fausse carte, vous pouvez la perdre, vous pouvez l'oublier. Alors, éventuellement, je n'invente pas ça, tout le monde le sait, éventuellement, il faudra que vous, et pas vous, nous, on sera partis, pas de problème avec nous autres, mais il faudra que les gens aient quelque chose, un chip électronique, une puce électronique sur le front ou sur la main, et il y aura là-dessus toutes les informations. Ils pourront vous suivre par un satellite avec cette affaire-là. On a des satellites aujourd'hui qui peuvent lire le journal par-dessus votre épaule quand vous êtes dans votre jardin. Big Brother saura absolument tout ce qui se passe. Et tout ce que je dis, c'est que la technologie maintenant existe pour que l'Antéchrist puisse faire toutes les choses que la Bible a prévenu qu'il ferait. Alors qu'il y a 50 ans ou 100 ans, c'était impossible. Nous avançons vers le retour du Seigneur et l'enlèvement va venir avant. Qu'est-ce que c'est le retour du Seigneur? C'est parce que ça va si mal sur la terre qu'il faut que le Seigneur vienne juger. Comme au temps de Noé, nous avons lu, au temps de Noé. Et ce sera le même au temps du Fils de l'homme. La méchanceté de l'homme était tellement mauvaise que Dieu a dit, il faut que je les anéantisse. Et c'est vers cela que nous avançons. Je vais vous donner quelques autres exemples avant que nous en ayons fini. Un article, la revanche des microbes. Oui, je suis certain que vous avez lu des choses là-dessus. On en a parlé à la télévision. Il y a des virus maintenant que nos antibiotiques ne peuvent pas détruire. On ne peut rien faire. Il y a des virus maintenant, on l'a connu, nous, au Québec, lui, il ne le sait pas, mais nous, on le sait, qui mangent votre chair. Et il y a des microbes qui font peur aux gens que si ces microbes se répandaient, ça pourrait éliminer des millions et des millions de personnes. Oui, on a Simpson Sears, nous, au Canada, oui. Oui. Ils ont Sears Roebuck aux États-Unis, nous, c'est Sears, oui. Ça, c'est une lettre de nouvelles de Sears. C'est une lettre pour les femmes. La première édition était en octobre 1994. Ça n'a pas un an. Sears, on peut certainement faire confiance à Sears. Ça, c'est les conservateurs. Écoutez ce qu'ils disent aux dames dans cette première édition. Suivez le programme. Et contactez votre sagesse inconsciente. D'abord, relaxez-vous. Calmez votre pensée. Videz complètement votre pensée. Remarquez les pensées comme si vous étiez un observateur éloigné. Ne laissez pas prendre votre pensée. Laissez-les s'échapper. Si vous avez été dans les sciences occultes, vous savez ce que c'est. Vous allez dans un autre état de conscience qui vous permet d'entrer dans le monde occulte. C'est comme ça que font les yogis, les yogas. Maintenant, visualisez votre problème. Il faut avoir une image visuelle de votre problème. Et la troisième chose, rencontrez votre conseiller intérieur. Et alors, invitez cette sagesse à rentrer en dedans de vous. C'est peut-être un vieil homme, c'est peut-être une femme, c'est peut-être une plante. Laissez cette image se manifester en vous et commencez à parler à cette image et elle vous répondra. S'il vous plaît, essayez pas ça, parce que ça marche. C'est la façon la plus rapide d'embarquer dans le monde de l'occulte. C'est ce que les chamans enseignaient, c'est ce que les sorciers enseignaient. C'est comme ça qu'ils se formaient l'un l'autre, les sorciers, pour pouvoir entrer en contact avec les esprits célestes et les utiliser pour la guérison. C'est de la science occulte, c'est de l'occultisme. Imaginez ça, publié par Sears. On parlait des charismatiques qui disent que nous sommes des dieux. J'ai ici le catéchisme de l'Église catholique, qui est hautement recommandé parmi les chrétiens aujourd'hui. J'en pourrais lire des choses pires, mais j'avais cette page sous les yeux. Section 460, page 116, démarqué là. Car le Fils de Dieu est devenu homme afin que nous puissions devenir des dieux, que nous puissions devenir Dieu avec un G majuscule. Le Fils unique de Dieu a voulu que nous partagions sa divinité, alors il a pris notre nature afin qu'il puisse faire de l'homme Dieu. Ça, c'est ce que le serpent a dit dans le jardin d'Éden. Et là, je vais vous choquer encore plus. Après ça, nous irons de l'avant à quelque chose de plus édifiant. Ceci vient du déjeuner de prière à Washington de 1994. Est-ce que ce n'est pas merveilleux qu'on ait une matinée de prière à Washington? Et le sénateur du Massachusetts, John Kerry, a lu Jean 3, du verset 1 à 21, mais évidemment, il a sauté par-dessus le verset 16, et il a dit, « Avec ces paroles, Jésus nous parle du renouvellement spirituel. » Et nous nous rencontrons aujourd'hui dans l'Esprit de Christ, comme le dit notre invitation, les bouddhistes, les musulmans, les juifs, les chrétiens, avec le nouveau président et le nouveau vice-président, nous sommes renouvelés spirituellement. Et le vice-président Al Gore a dit, la foi en Dieu, avoir confiance dans une puissance supérieure, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est quelque chose d'essentiel. Billy Graham était là, il a dit quelques mots, et dans ce qu'il a dit, il a dit, je ne connais pas un moment où nous avons eu un moment plus spirituel que celui que nous avons eu aujourd'hui. Il y a un mouvement de prière aux États-Unis, il y a un jour national de prière, et le leader de ce mouvement, pour le moment, c'est la femme de James Dobson. Est-ce que ce n'est pas merveilleux que tout le monde se réunit pour prier ensemble? Les mormons, les bouddhistes, les musulmans, qui que vous soyez, priez votre Dieu. Nous avons un jour national de prière. Pouvez-vous imaginer Élie qui dit, « Bon, on va avoir un jour de prière en Israël. » Alors les prophètes de Baal vont prier Baal et les prophètes des autres dieux vont prier leur Dieu. Ou bien Paul qui disait, « On va avoir une journée de prière nationale et puis il y aura les prêtres du temple de Diane qui vont prier. » Et puis, du temple de Diana Eiffel. Non, la Bible dit, si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie et prie, alors j'entendrai. Mais nous avons un mouvement de prière qui rassemble tout le monde pour prier, peu importe ce qu'il croit, peu importe le Dieu auquel vous croyez. Et je vous ai cité hier ce que disait le pape Jean-Paul II, qui a rassemblé tous ces païens à Assise en Italie, et il a dit, nous prions tous le même Dieu. Ce n'est pas surprenant que Paul a prié jour et nuit, a parlé jour et nuit en pleurant pour avertir de l'illusion qui s'en vient, et Jésus aussi. Bon, c'en est assez avec tout ça. Retournons à l'Écriture. Tournez dans Luc chapitre 12. Alors, quand je dis certaines de ces choses-là, je pense qu'il y a bien des gens qui ne l'entendent pas. À quel point la situation est terrible. Elle est tellement c'est plus terrible qu'on ne puisse l'imaginer. Comment est-ce que c'est possible que ça soit si terrible? Paul a averti, mis en garde contre un autre Jésus, un autre évangile. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Si vous allez faire un faux billet de vin, vous ne marquez pas en plein milieu du billet « contrefaçon ». Vous allez vous efforcer pour qu'il ressemble le plus possible à un billet de 20 $. Vous ne voulez pas qu'il soit différent, vous voulez qu'il soit aussi pareil que possible. Alors, un faux évangile, il faut qu'il ressemble autant que possible au véritable évangile, afin de tromper les gens. Est-ce que ça a de l'importance? Romains 1, 16 dit « Je n'ai pas honte de l'évangile ». C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que nous devons croire l'Évangile? Est-ce que je peux croire à n'importe quel Jésus? Est-ce que ça a de l'importance qu'il est mort sur la croix ou non? Qu'il est mort pour mes péchés? Est-ce que ça a de l'importance, comme disent Hébreux 9 et 10, qu'une fois à la fin des temps, il est mort pour ôter le péché par son sacrifice? Cet homme, après avoir offert un seul sacrifice, s'est assis à la droite de Dieu le Père. Est-ce que ça est important? Que par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés, ou bien ce que nous pouvons dire, comme disent les catholiques romains, chaque fois. Je peux vous citer le catéchisme catholique, ou le dictionnaire catholique, le dictionnaire de poche qui dit, par exemple, oui, Christ a obtenu toutes les grâces de Dieu à la croix, mais ce n'est qu'au travers du sacrifice de la messe que ces grâces nous sont graduellement et continuellement appliquées. Alors, vous ne pouvez pas aller à Christ, vous devez aller à l'Église, et l'Église vous donne un autre épisode de votre salut. Chaque fois que vous allez à la messe, et sur la même page, ce dictionnaire dit, « Sans le prêtre, il n'y a pas de messe, parce que c'est le prêtre qui seul a le pouvoir de changer le pain et le vin en corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le plus souvent, vous allez à la messe, vous communiez, le plus de vie vous recevez, le plus de grâce vous avez, le mieux c'est. Est-ce qu'il y a une différence? Si je dois croire que Jésus-Christ est mort à la croix, une fois pour toutes pour mes péchés, et qu'au lieu de ça, je crois que cette Église-là m'apporte les bénéfices de cette mort par épisode, et que finalement je vais aboutir au purgatoire, et puis les anges, c'est un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile qui sauve. Et Paul nous avertit contre le faux évangile. Nous devons donc nous tenir fermes sur la vérité de la parole. Et une partie de cette vérité, c'est le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ pour enlever son Église. Je me souviens, j'étais à une interview à la radio. La plupart des postes de radio chrétiens ne veulent pas me voir la face aux États-Unis, mais de temps en temps, quand même, on m'invite. Alors, il y a un catholique qui a appelé et il a dit, « Je veux que vous sachiez que nous, catholiques, nous ne croyons pas ce que vous, les évangéliques, vous croyez. » Oh, j'ai dit, « Merci beaucoup de m'avoir dit ça. » Quand moi, j'essaye de le dire aux évangéliques, ils ne me croient pas, peut-être qu'ils vont le croire quand vous, vous le dites. Il a dit, de plus, nous autres, on ne croit pas à l'enlèvement. Vous avez les catholiques charismatiques, le magazine des catholiques charismatiques qui s'appelle La Nouvelle Alliance. Ils ont plusieurs articles qui ridiculisent l'enlèvement. Ils ont dit, nous ne croyons pas à l'enlèvement. J'ai dit, bien sûr, vous ne croyez pas à l'enlèvement. Comment pouvez-vous croire à l'enlèvement si vous croyez au purgatoire? Il y a des gens qui devront peut-être être là 1000 ans, d'autres 100 ans. Et ceux qui meurent et puis qui ont le scapulaire de Notre-Dame de Mont-Carmel, qui en 1322 est apparu au pape Jean de ce temps-là, et lui a donné le privilège, la promesse sabbatique, que ceux qui meurent en portant son scapulaire, le samedi après leur mort, elle va elle-même aller au purgatoire les chercher pour les ramener au purgatoire. Alors vous avez des gens qui sortent du purgatoire à toutes sortes de moments. Maintenant, ceux qui sont encore vivants n'ont même pas encore été au purgatoire. Alors, comment est-ce qu'ils pourraient être enlevés en même temps que les morts ressuscitent? Comment est-ce que cela pourrait se passer? C'est impossible, ça va à l'encontre de l'idée catholique fondamentale. Mais ça, c'est la grande espérance de l'Église. Et dans les quelques minutes, et pas beaucoup de minutes qui nous restent, je veux insister sur la même chose que Jésus insistait. Luc 12, verset 22. Non, Luc 12, verset 35 et 36. « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Verset 40. « Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Jésus dit, que vos reins soient sains, que vos lumières et vos lampes soient allumées, et que vous soyez prêts pour que, tout comme quand lorsque le maître rentre, il frappe à la porte et vous êtes prêts, car il va venir à un moment où vous ne l'attendrez pas. Nous avons lu d'autres versets, Matthieu 24, verset 44, qui dit la même chose, et il y a d'autres versets que nous pourrions citer. Mais remarquez le verset 45-46, « Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. » Ça m'a frappé lorsque j'ai lu ces passages, et je vais vous lire Matthieu 24, 48, vous n'avez pas besoin de tourner. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », non seulement il doit y avoir une attente chez ceux qui connaissent le Seigneur et un désir de son retour, comme une épouse attend celui qui va venir l'épouser, mais il y a aussi l'indication que c'est une pensée mauvaise de penser qu'il sera retardé. Oh, j'ai pas besoin de mettre les choses en règle, j'aurai encore bien du temps, il faut d'abord que l'Antéchrist arrive, et c'est seulement après ça, il faut d'abord la grande tribulation ou tout ça. Et l'idée même qu'il ne peut pas venir à n'importe quel moment a pour effet qu'on se relâche. La plus grande motivation pour vivre la vie chrétienne, ce n'est pas que peut-être je vais mourir. Je sais que quand j'étais jeune, j'ai pas besoin de mettre les choses en règle, j'aurai encore bien du temps, il faut d'abord que l'Antéchrist arrive, et c'est seulement après ça, il faut d'abord la grande tribulation ou tout ça. Et l'idée même qu'il ne peut pas venir à n'importe quel moment a pour effet qu'on se relâche. La plus grande motivation pour vivre la vie chrétienne, ce n'est pas que peut-être je vais mourir. Je sais que quand j'étais jeune et j'étais dans les assemblées, le prédicateur nous agitait son doigt puis il disait « Vous devez venir à Jésus-Christ ce soir parce que vous pourriez sortir d'ici, de cette salle et puis être écrasé par une auto et vous seriez dans l'éternité sans Christ. » Oh, ça me faisait peur au début. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui se faisaient écraser en sortant de la chapelle. Ça n'arrivait pas bien souvent. Alors, avec le temps, ça ne me faisait plus peur. Salomon dit, il vaut mieux aller à une funéraille qu'aller à un festin, parce qu'au moins une funéraille, c'est la fin de tout, et les assistants le prennent à cœur. Mais même cela, ce n'est pas une grande motivation. Parce que même si vous savez que vous avez le cancer, vous pouvez vous mettre à un régime aux fibres. Vous savez, ce couple qui est arrivé au ciel, il trouvait que le ciel était merveilleux, et finalement, elle dit, pense combien plus vite nous aurions pu arriver si nous n'avions pas mangé tout ce son d'avoine. Vous pouvez avoir la thérapie radioactive ou certaines opérations, et on pense qu'on a un certain contrôle sur nos vies. Mais quand Jésus revient, là, il vient quand il a décidé de revenir, quand c'est le moment. Et vous n'avez aucun contrôle, ça pourrait être maintenant, dans un instant, demain, aujourd'hui, demain. Et c'est ça qui est la motivation, qui était la motivation des chrétiens du début. Alors, je vais vous citer quelques versets que vous connaissez. J'ai déjà cité 1 Thessaloniciens 1:10. Vous êtes tournés des idoles vers le Dieu vivant et pour attendre son Fils des cieux. Philippiens 3:20. Notre citoyenneté est dans les cieux, d'où aussi nous attendons notre Sauveur. Nous regardons, nous attendons. Hébreux 9:27. Mais à ceux qui l'attendent, il apparaîtra une deuxième fois sans péché. Cela ne veut pas dire qu'à moins que vous soyez en train de regarder dans le ciel au moment où Jésus apparaît, qu'il ne vous prendra pas. Ce que cela veut dire, c'est que c'est caractéristique d'un vrai chrétien d'attendre le Seigneur et d'avoir hâte à son retour. Nous avons cité hier soir Tite 2:13. Qu'est-ce qui est écrit là sur la bienheureuse espérance? Attendant la bienheureuse espérance. Ce n'est pas une bienheureuse espérance si vous ne l'attendez pas. Et si vous l'attendez, ça veut dire que ça peut venir à n'importe quel moment. Autrement, ça ne sert à rien de l'attendre. Si ça ne peut pas venir avant l'action de grâce ou avant Noël ou avant la venue de l'Antéchrist. C'était la grande motivation de l'Église primitive. Il n'était pas de ce monde. Passez au travers des évangiles et voyez combien de fois le Seigneur a dit. Il a dit, pensez au ciel, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, ramassez-vous de trésors dans le ciel, je viens du ciel et c'est là que je retourne et c'est là que je vous amènerai dans la maison de mon Père. Vous connaissez tous ces versets-là, c'est ça que la Bible enseigne. Mais nous avons une église aujourd'hui, même des évangéliques conservateurs qui, au lieu de prêcher l'évangile pour appeler les gens à sortir de ce monde et être des citoyens des cieux, ils essaient d'arranger le monde pour que ça devienne un pays chrétien dans lequel nos arrière-petits-enfants pourront vivre en paix. Ils ont perdu tout espoir du retour de Jésus-Christ. Ils ont perdu l'orientation de la parole de Dieu qui parle à nos cœurs. Tournez dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, c'est un des chapitres les plus forts de la Bible. Si vous voyez voulez voir ce que votre vie ne devrait pas être et ce qu'elle devrait être. Je vais faire exprès de laisser tomber un mot. OK. Oh, OK. Hein. What chapter is that? What chapter? Chapitre. No, no. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Il y a une longue liste là dont il faut se débarrasser si nous sommes croyants. Une liste de choses qui ne devraient pas caractériser un chrétien, la vie d'un chrétien. Ensuite, au verset 12, dis-le exactement. Okay. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté et d'humilité. Là, il y a une longue liste de ce qui devrait nous caractériser. Maintenant, vous, les théologiens, quel est le mot que nous n'avons pas pris? Nous avons laissé tomber « oh, ainsi donc ». Je regrette, moi je l'ai dit, mais lui n'a pas dit « ainsi donc ». Alors, s'il y a un « ainsi donc », qu'est-ce que ça veut dire? Les trois premiers versets. OK, 1-4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez la motivation? Lorsque Christ, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Mais pour le moment, vous êtes mort. Votre vie est en Christ. Vous ne faites pas partie de ce monde. Vous êtes ressuscité avec Christ. Vous êtes dans les lieux célestes. Faites donc mourir. Ainsi donc. C'est ça la motivation. Et ce sont des versets importants pour la sécurité éternelle. Il y a bien des gens là qui ne savent pas que quand ils sont sauvés et ils ne peuvent pas perdre leur salut. Le Seigneur a dit, je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais. Pourquoi est-ce que je dis que ce passage-ci est important pour la sécurité éternelle? Parce que j'ai été ressuscité avec Christ. Paul dit, je suis crucifié avec Christ. Vous ne pouvez pas me décrucifier. Je suis mort. Je suis en Christ. Il est en moi. Vous ne pouvez pas changer ça. Ainsi donc, nous devons vivre comme des gens qui sont en Christ et en qui Christ vit. Nous devons vivre comme des gens qui ne sont pas de ce monde. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à ses disciples? Il a dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais parce que vous n'êtes pas de ce monde et que je vous ai choisi pour vous sortir du monde, le monde vous hait. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, moi, s'ils vont m'ont crucifié, moi, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont vous faire à vous si vous m'êtes fidèle? Et pourtant, nous avons des chrétiens aujourd'hui qui essayent de vivre comme le monde. Une des choses les plus malheureuses qui soient, c'est que nous essayons de présenter l'Évangile à la façon du monde pour que le monde l'aime. Vous devriez voir les lettres que je reçois d'Union soviétique concernant certains des groupes qui vont là. Et ces jeunes avec les longs cheveux, puis leurs boucles d'oreilles, et puis ils imitent le monde, ils font comme le monde, et alors ils viennent ici. Je reçois des lettres d'Albanie, et puis les chrétiens disent, est-ce que c'est ça le christianisme dans vos pays? Et ils essayent de présenter l'Évangile pour que ce soit digestible pour le monde. Si le monde est capable de digérer l'Évangile, si une personne non régénérée peut digérer l'Évangile, alors ça ne la régénérera pas. Ce que l'Évangile veut faire, c'est nous sortir du monde pour nous transformer. Qu'au lieu d'être orientés vers le monde et que nous aimions les choses du monde, que nous soyons orientés vers Dieu, que nous aimions Dieu et que nous ayons notre affection dans les choses d'en haut et non pas dans celles de la terre. Il n'y a pas de plus grande motivation que ça. Le fait de savoir que Jésus-Christ peut venir à n'importe quel moment. C'est ça la bienheureuse espérance. Alors, nous avons essayé de vous donner un nouveau point de vue sur la prophétie. La Bible, c'est 30% de prophétie. Et la plupart des prophéties sont déjà accomplies. Et la première chose dont la prophétie nous a convaincus, c'est que Dieu existe et que la Bible est sa parole.
ce qu'il a dit sur Israël s'est réalisé. Ensuite, elle nous convainc que Jésus est le Messie, c'est l'Évangile de Dieu qu'il avait promis par ses saints prophètes dans les Saintes Écritures. Et c'est comme ça que nous prêchons l'Évangile. Paul est allé dans les synagogues, il a ouvert les Écritures et il a discuté, raisonné avec eux. Apollos les a convaincus avec puissance que Jésus est le Christ par les Écritures. Nous devons aller à la parole de Dieu, prendre les prophéties qui ont été accomplies dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous devons être conscients que dans ces derniers jours, il y a une apostasie générale qui va miner, qui va saper l'Évangile, qui va présenter un autre Christ, qui va mettre de l'eau dans la vérité de l'Évangile, qui peut libérer les âmes, qui va embrouiller les gens et qui va savoir l'air du véritable Évangile autant que possible, mais qui est aussi un faux Évangile parce qu'il est aimé par le monde aussi. Il y aura des faux prophètes, des faux Christs qui apporteront un faux message sur un faux Jésus. Il y aura des faux signes et des faux miracles pour détourner les gens. Ils préparent le monde pour l'antéchrist qui s'en vient, qui s'opposera à Christ en prétendant être Christ, et qui unira le monde dans un faux christianisme. Et tout le monde croira qu'ils suivent le Christ alors qu'ils suivent Satan. Et il faut que nos motivations, moi-même dans ma vie, il faut que ma motivation soit, je suis crucifié avec Christ, je suis mort, ma vie est cachée en Christ avec Dieu. Je dois d'abord porter mon affection sur les choses d'en haut, et je dois attendre avec espérance celui qui revient à n'importe quel moment pour m'enlever. Est-ce qu'une future épouse n'a pas hâte d'être avec son époux? Est-ce qu'elle n'a pas hâte au jour du mariage? Alors, s'il y en a qui prétendent être l'épouse de Jésus-Christ et qu'ils n'ont pas hâte à son retour, bien, Jésus, j'aimerais bien que tu reviennes, mais là, tu sais, on devait faire un voyage à Hawaï, ça fait que attends après le voyage. On n'a jamais été en Hawaï, on aimerait bien voir ça. Ô Seigneur, on vient de se fiancer, laisse-nous au moins avoir notre lune de miel avant de revenir. Seigneur, tu veux revenir, mais là, regarde, j'ai ma remorque qui est prête avec mon bateau, puis on va traverser le Canada. S'il te plaît, ne reviens pas si vite que ça. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Assurons-nous que nos cœurs sont comme il veut qu'ils soient, en amour avec celui qui est mort à la croix et sur qui nous chantons des cantiques, qui a payé une dette que nous ne pouvions payer nous-mêmes et à qui nous devons tout. Nous avons hâte d'être avec lui. Ça a été une joie pour moi d'être avec vous, à essayer de rencontrer, de connaître un peu mieux le Québec et les Québécois, les Canadiens français, quel que soit le nom que vous utilisez. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes rien du tout. Nous sommes des disciples de Christ. C'est ça que nous sommes. Premièrement, nous l'aimons, nous nous aimons les uns les autres, et ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté patiemment. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous y pensez bien, priez pour moi. Nous avons besoin de vos prières. Merci.